infos du monde sur Radio France Internationale. À Paris, il est 4h.
Mathis Limano.
Quelle perspective pour un cessez-le-feu durable en Ukraine? Celui de ce week-end n'aura duré que 30 heures et pourtant les violations se sont multipliées. Il s'est achevé à minuit, heure de Kiev. Depuis Washington, Donald Trump dit espérer un accord cette semaine. Top départ ce lundi de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Première étape, Mayotte. Le président français revient comme il l'avait promis pour faire un point sur la refondation de l'archipel 4 mois après le passage du cyclone Chido. La Corée du Sud également à la une. Nouvelle audience au pénal ce lundi pour Yoon Suk-yeol, l'ex-président comparé pour insurrection après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Et puis à Londres, la Leicester Square est silencieuse depuis quelques jours. C'était le lieu de rendez-vous des artistes en tout genre, mais un décret municipal a vidé la place suite à une plainte. À peine annoncée, déjà terminée, la trêve décrétée samedi par Vladimir Poutine à l'occasion du week-end de Pâques s'est achevée hier soir. Un arrêt des combats émaillé par de très nombreuses violations des deux côtés. De quoi s'interroger quant aux perspectives d'un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine. Et alors que Donald Trump avait promis de mettre fin au conflit en 24 heures, aux États-Unis, les réfugiés ukrainiens s'inquiètent quant à leur avenir. L'idée de mettre fin à leur statut de protection est sur la table, a indiqué la Maison Blanche. Parmi ces réfugiés, Misha, il est originaire de Zaporijjia au sud de l'Ukraine. Lui est arrivé aux États-Unis avant l'invasion russe. Notre envoyé spécial Nathanaël Vitran l'a rencontré à Austin devant le Capitole à l'occasion d'un rassemblement en soutien à l'Ukraine.
La situation m'inquiète. Si l'administration Trump décidait comme ça, sans prévenir, de les expulser, de dire à 200 000 personnes, retournez dans un pays en guerre, en pleine invasion, où leur vie serait en danger, ce serait inhumain. D'un point de vue humanitaire, ce serait scandaleux. Je ne comprends même pas que ce soit, ne serait-ce qu'envisagé par cette administration. De manière générale, je suis très déçu. Les États-Unis sont censés être un pays fort, qui n'a peur de personne. Et on se comporte comme si on avait peur de la Russie. Et on s'en prend à un pays comme le Canada, ça n'a pas de sens. C'est le monde à l'envers.
Et hier soir, quelques heures à peine après la fin de la trêve, Donald Trump a dit espérer un accord cette semaine entre Russes et Ukrainiens. Cette autre guerre commerciale, celle-ci, la Chine dénonce à l'instant les pays qui jouent l'apaisement à l'égard des États-Unis. Pékin, qui répond frontalement aux droits de douane américains, affirme s'opposer fermement à tout accord nuisant à ses intérêts. Comme une forme de provocation, le président du Salvador, Nayib Bukele, propose un échange de prisonniers au président du Venezuela, Nicolas Maduro, pays dont plus de 200 ressortissants présumés criminels ont été expulsés ces dernières semaines des États-Unis vers le Salvador. Nayib Bukele veut les échanger contre des prisonniers politiques enfermés au Venezuela. Leur détention est seulement due au fait qu'ils se sont opposés à vous et à vos fraudes électorales, a lancé Nayib Bukele à son homologue vénézuélien. Et puis dans la bande de Gaza, au moins 25 personnes sont mortes dans des frappes ce dimanche, selon la défense civile. Par ailleurs, l'armée israélienne a publié un rapport sur la fusillade le mois dernier qui a tué 15 secouristes palestiniens. L'armée reconnaît des fautes, elle va limoger un officier qu'elle estime responsable et dit regretter les victimes collatérales. Mais le rapport souligne que les militaires n'ont pas tiré à l'aveugle et affirme que 6 membres du Hamas étaient présents sur place. Le croissant palestinien dénonce un rapport truffé de mensonges et affirme que les militaires israéliens ont ouvert le feu avec l'intention de tuer.
RFI.
Top départ pour Emmanuel Macron d'une tournée dans l'océan Indien, à commencer par Mayotte. Ce lundi, le président français vient sur l'archipel à l'occasion des 4 mois du passage du cyclone destructeur Chido afin de faire le point sur la reconstruction de l'archipel. Mais à 3 jours d'un sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar, sommet où Emmanuel Macron est d'ailleurs attendu, des informations circulent sur une intégration de Mayotte à l'organisation régionale, une perspective aussitôt écarté par Moroni, qui rappelle que l'île reste comorienne et que sa souveraineté n'est pas négociable. Correspondance d'Abdallah Zembaba.
Pour l'ambassadeur Imam Abdullah, ancien officier permanent de liaison auprès de la COI, la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte ne devrait pas être perçue comme une crainte sur les velléités liées à l'île dans l'organisation régionale. Depuis 2018, la France mène une politique indo-pacifique, incluant le sud-ouest de l'océan Indien, où elle dit veiller sur ses intérêts, notamment stratégiques, pour sa sécurité et sa prospérité. Sur la question de Mayotte, la position de Moroni est claire, l'île est comorienne et ne peut intégrer la commission de l'océan Indien en tant qu'entité française, puisqu'elle y est déjà en tant que comorienne. L'ambassadeur Imam Abdullah dénonce une guerre de communication menée par certains élus maoris et de rappeler qu'aucune discussion n'est en cours au sein de la COI sur ce sujet. Une ligne rouge réaffirmée aux Seychelles le 15 avril, le ministre comorien des Affaires étrangères a rejeté toute tentative d'association de Mayotte à la COI au nom du respect de l'intégrité territoriale et du droit international. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
En Corée du Sud, nouvelle audience au pénal ce lundi pour Yoon Suk-yeol, l'ex-président du pays, comparé pour insurrection à la suite de sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Et dans le camp du président destitué, le sentiment anti-chinois grandit. Un discours nourri par les cadres du parti conservateur. Ils accusent Pékin d'être à l'origine de la crise politique qui a précipité la chute du président. Ces derniers jours encore, les soutiens de Yoon Suk-yeol ont manifesté violemment dans les quartiers chinois de la capitale, Séoul, appelant leurs habitants à retourner en Chine. C'est Diouf Fioretti.
Les Chinois et les Rouges dégagés, c'est ce que scandent les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol dans les rues de Jiayang, un quartier de la capitale Séoul connu pour ses nombreux restaurants chinois. Une manifestation organisée par un millier d'étudiants pro-Yoon, la frange la plus radicale de ses soutiens. Venus perturber en soirée les restaurateurs chinois, ils en sont venus aux mains avec l'un d'entre eux. Ce dernier a été hospitalisé. Après cet incident, la communauté chinoise s'inquiète d'une escalade de la violence de la part des manifestants. Depuis le mois de décembre, les cadres du Parti conservateur et ses militants accusent la Chine communiste d'avoir fomenté les troubles qui ont mené à la chute du président Yoon, une théorie du complot largement relayée et qui se concrétise aujourd'hui par ses violences envers la communauté chinoise. L'ambassade de Chine en Corée du Sud a exprimé ses regrets quant à la montée du sentiment anti-chinois dans le pays et invité ses ressortissants à se tenir éloignés de toute manifestation politique. Au mois de février, un partisan du président Yoon avait tenté de rentrer de force dans l'ambassade de Chine à Séoul. La police coréenne a annoncé depuis renforcer son dispositif dans les quartiers chinois susceptibles d'être victimes de violences. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
À Londres, c'est une place emblématique du centre-ville, réputée pour ses prestations d'acrobates, de musiciens et de danseurs. La Leicester Square, haut lieu touristique de la capitale britannique, n'est désormais plus ce qu'elle était. Une plainte pour nuisance sonore déposée par les riverains a eu raison des performances artistiques jugées trop bruyantes. Le décret municipal effectif depuis jeudi dernier a vidé la place de ses traditionnels occupants, au grand dam des visiteurs rencontrés par Sidonie Gaucher.
Sur la place touristique, l'ambiance était assurée par les artistes de rue. C'est maintenant terminé à cause des plaintes des riverains. La mairie de Westminster a dit stop au vacarme. Pour James, un Anglais de 9 ans, c'est une déception.
Oui, je suis très triste car je venais ici avec mes parents et il y avait beaucoup de musique. C'était très vivant et je trouvais ça super chouette avec tous ces gens qui chantaient et qui dansaient. J'adorais ça.
Pour autant, la qualité de spectacle n'était pas toujours au rendez-vous. Certains artistes jouaient sans autorisation et de façon souvent agressive. Alors pour Dana, caricaturiste accréditée, cette décision est plutôt un soulagement.
Parfois, on les abordait et on leur demandait de baisser le volume, mais ils étaient très agressifs, ils étaient irrespectueux. C'était une vraie torture psychologique de les écouter encore et encore.
Avec moins de bruit, on peut presque entendre le son de la fontaine de Shakespeare au milieu de la place et des passants. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
En Ligue 1 de football, Saint-Etienne s'impose dans le derby du Rhône. Victoire des Verts 2-1 contre Lyon. La rencontre a été marquée par une interruption de 45 minutes à cause d'un projectile lancé sur un arbitre. En Angleterre, Arsenal met des bâtons dans les roues de Liverpool. Les Reds, pas encore sacrés. En effet, les Gunners restent en embuscade. Ils se sont imposés 4-0 chez le désormais relégable Ipswich. Eux aussi ont subi le sort d'Arsenal. C'était en Ligue des Champions. champions, le Real Madrid se relance à domicile 1-0 contre Bilbao. Les Madrilènes, toujours dans la course, ne comptent que 4 points de retard sur le leader Barcelone. RFI, il est 4h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.